L'AME, ça représente quelque chose de sacré. Maintenant, il y a peut-être des abus. Nous devons l'évaluer.
L'AME, autrement dit, aide médicale d'État qui permet aux migrants en situation irrégulière de se soigner, pourrait être réformée, mais le sujet divise au sein du gouvernement.
Le réchauffement climatique pourrait être encore pire qu'on ne l'imaginait. Projection scientifique inquiétante, plus 7 degrés en 2100.
Vous savez, j'avais l'impression que c'était notre premier rendez-vous, mais c'était un choc. Je tremblais comme une feuille.
On a parlé de nous, on a parlé des enfants, on a parlé des petits-enfants.
Isabelle Balkany, qui a pu rendre visite à son mari pour la première fois à la prison de la Santé, elle raconte à Europe 1 ce matin comment ça s'est passé.
Il y a de la fusion dans l'air entre les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. C'est ce que nous révèle Mickaël Darmon ce matin sur Europe 1. Le président a donné son feu vert.
Et puis l'affiche foot de la journée, c'est bien sûr PSG Real en Ligue des Champions.
Pourquoi pas cette année alors que tout est contre eux? Le PSG est surprenant, donc pourquoi ne pas créer la surprise?
En direct, en intégralité, en public, soirée spéciale dès 20h sur Europe 1. Il est 6h01. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
7 degrés de plus en 2100, voilà le scénario du pire évoqué désormais par les scientifiques français. Ce qui veut dire en clair que le réchauffement climatique pourrait s'avérer d'une ampleur encore plus importante qu'on ne l'imaginait. On se souvient que le dernier rapport du GIEC prévoyait une hausse des températures de 4,8 degrés. Comment les prévisions ont-elles pu évoluer à ce point, Virginie Salmen?
D'abord, pas de raison de paniquer ni de se décourager. Dans toutes les études scientifiques sur le climat, il y a des hypothèses optimistes et des hypothèses pessimistes. Là, ce scénario d'un réchauffement de 6,5 degrés à 7 degrés est le plus pessimiste, mais il ressemble à notre mode de vie actuel. C'est-à-dire, si on continue à exploiter le gaz, le pétrole et toutes les énergies fossiles sans rien changer à nos habitudes, avec en plus une croissance économique rapide. Et puis même si on prenait des mesures drastiques dès aujourd'hui, il y a une inertie du CO2 déjà émis, c'est-à-dire qu'il va falloir du temps avant qu'il ne se dissipe. Ces projections sont inquiétantes dans la mesure où les scientifiques estiment que ces nouveaux modèles de calcul sont plus fiables et plus fins que les précédents. Mais il y a aussi l'hypothèse optimiste selon laquelle les États coopèrent et donnent la priorité au développement durable dès maintenant. Et là, on resterait tout juste sous les 2 degrés de réchauffement. Ce lundi, justement, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, convoque un sommet à New York pour pousser les dirigeants mondiaux à fixer des objectifs climatiques plus ambitieux.
Virginie Salmen, et à propos de météo, sachez que l'ouragan Umberto est désormais considéré comme un ouragan majeur, classé 3 sur 5, avec des vents à 185 km/h. Il doit passer ce soir près des Bermudes, après avoir touché les Bahamas sous forme de tempête tropicale.
C'est peut-être une autre forme de tempête qui s'apprête à déclencher le président de la République, Emmanuel Macron, en remettant l'immigration au cœur du débat.
En prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste, disait-il avant-hier. Pas question donc de laisser ce thème à la droite et à l'extrême droite. Parmi les pistes de réforme à l'étude, l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet aux personnes en situation irrégulière de se soigner. Son budget a doublé en 10 ans, il frôle le milliard d'euros. Mais pour Gilles Legendre, président de la majorité à l'Assemblée, pas question de revenir sur le dispositif.
L'AME, ça représente quelque chose de sacré, notamment pour le monde médical. C'est un peu comme le serment d'Hippocrate. C'est ce qui permet de soigner quelqu'un qui en a besoin. Et donc, de ce point de vue-là, jamais nous ne remettrons en cause ce principe et personne, ni le président de la République, ni nous-mêmes, n'envisageons de remettre en cause ce droit-là. Maintenant, comme c'est le cas dans un nombre infini de prestations sociales ou de droits, il y a peut-être des abus dans des proportions qui sont peut-être modestes, peut-être plus importantes. Nous devons l'évaluer et ces abus ont probablement des effets délétères sur la manière dont nos concitoyens jugent cette fameuse aide médicale d'État.
Le président du groupe majoritaire à l'Assemblée, invité de David Doucan hier soir sur Europe 1.
Et selon vos informations, Jean-Rémy Baudeau, ce thème de l'immigration a été rajouté à l'ordre du Conseil des ministres de ce matin, mais il divise le gouvernement.
Oui, au sein de l'exécutif, plusieurs visions s'opposent sur l'immigration, notamment sur l'épineux sujet de l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de se soigner. Selon un conseiller gouvernemental, place Beauvau, comme chez certains ministres issus de la droite, on plaide pour un réaménagement. En un mot, repenser la liste des soins pris en charge. Un pacte politique assuré dans l'opinion. Mais problème, selon nos informations, l'idée est rejetée par la ministre de la Santé. On ne touche pas à l'AME, tambourine en privé Agnès Buzyn. Un plaidoyer qui porte au plus haut niveau. L'un des ministres les plus proches du président affirme « Si on constate des pratiques vraiment hors cadre, on ajustera, mais pas question de revenir sur le principe de l'AME. » Reste ainsi deux leviers pour le gouvernement, créer des quotas sur l'immigration légale ou doper le nombre de reconduites à la frontière. Une promesse qui se heurte tout souvent au refus des pays d'origine d'accueillir à nouveau leurs ressortissants.
Jean-Rémy Baudeau.
On manque encore de concret sur ce qui sera décidé. Cela dit, les pistes sur la table, on les a. Les reconduites à la frontière, l'aide médicale d'État, les quotas d'immigration. Sur ces sujets, vous souhaitez réagir, vous n'hésitez pas. 3921, le hashtag Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h05.
Le congrès national des sapeurs-pompiers s'ouvre aujourd'hui à Vannes, c'est dans le Morbihan. Une profession sous tension depuis la fin du mois de juin, les syndicats de pompiers professionnels ont lancé une grève pour demander davantage de soutien de l'État. Mouvement symbolique, mais qui témoigne du ras-le-bol de cette profession.
Bonjour Salvatore Fifo. Vous êtes pompier volontaire à Loriol, dans la Drôme. On essaie de vous joindre. Apparemment, on me dit qu'on ne
petit
vous n'êtes
pas
en ligne.
Avec Salvatore Fifo.
Voilà, donc nous essaierons peut-être de le joindre.
Je vais profiter de ce petit flottement, puisqu'on a un petit souci de liaison avec Salvatore Fifo, pour préciser une chose. Demain, l'émission La France bouge, présentée par Raphaël Duchemin, sera en direct de Vannes pour ce congrès national des sapeurs-pompiers de France. Rendez-vous sur Europe 1 entre 12h et 14h.
Alors, on a retrouvé Salvatore Fifo. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct tôt le matin sur Europe 1. Vous êtes pompier volontaire à Loriol dans la Drôme. Ça fait 30 ans que vous faites ce métier. En quoi est-ce qu'il a changé ?
Ben, il a changé dans le sens que il y a 30 ans, quand j'ai débuté en 90, on était les bons samaritains de la population. Et puis on s'avère que maintenant, on a des agressions verbales, on a des agressions physiques, on a même des meurtres, ce qui s'est passé à Paris il y a quelque temps. C'est pour ça que ça a changé. On n'est plus les simples pompiers qui portent secours. Maintenant, il faut qu'on se protège en même temps qu'on porte secours.
Avec le sentiment, pour certains de vos collègues, d'être en danger lors des interventions, comment remédier à cette situation ? Évidemment, ce sera discuté dans ce congrès national qui s'ouvre aujourd'hui. Qu'attendez-vous concrètement ? Des effectifs ?
Des effectifs, oui. Malheureusement, les pompiers volontaires, c'est en baisse, hein, puisqu'il y a plus de départs que de recrutement. Un professionnel, je peux que demander des effectifs, bien sûr. Je ne le suis pas, mais je peux en demander. Mais aussi, il y a de la prévention à faire. Il y a du civisme, il y a à faire des informations à la population, que nous, les sapeurs-pompiers, on n'est pas là pour faire le boulot de gendarmes et de policiers. On est là pour sauver, mais malheureusement on a un équipement, on a un habit qui ressemble aux gendarmes. On est tout en bleu et puis on représente l'État. C'est ça qui a le problème. Et vu qu'avec les mouvements sociaux qu'il y a actuellement, c'est peut-être ça aussi qui fait qui a de problème au niveau des secours.
Merci Salvatore Sifo d'avoir été en direct dans ce journal. Vous êtes pompier volontaire dans la Drôme.
Europe 1. Et vous ne manquez pas dans un instant le témoignage d'Isabelle Balkany pour Europe 1. Elle a pu rendre visite pour la première fois à son mari à la prison de la santé et elle nous raconte comment ça s'est passé dans quelques secondes.
Europe 1, il est 6h08. Il est 6h10, la suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Et c'est une décision qui pourrait bien changer le paysage politique francilien. Hauts-de-Seine et Yvelines ne feraient plus qu'un.
Oui, deux départements qui veulent fusionner depuis 2016, mais jusqu'ici il y avait un veto du gouvernement. Ce que vous nous révélez ce matin, Mickaël Darmon, c'est que cette interdiction est désormais levée et que la fusion va pouvoir devenir une réalité.
Le feu vert a discrètement été donné au printemps par le président Macron. L'État négocie la fusion entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines, dirigée l'un par Patrick de Végean, l'autre par Pierre Bédier, deux figures de la droite LR. Au départ, il s'agit d'optimiser deux territoires puissants et prospères, 3 millions d'habitants à eux deux. Mais pour l'Élysée, le calcul est politique. 92 plus 78 égale 25. 25 députés LaREM sur les deux départements, de quoi donner des idées de conquête. Et selon une note qu'Europe 1 a pu consulter, la négociation prend l'allure d'un raid sur la droite régionale avec un deal à la clé. En échange de la fusion, des marcheurs seront intégrés dans les listes aux municipales puis aux départementales afin d'être capables de prendre la région Île-de-France en 2021. On le voit, Emmanuel Macron enjambe déjà les municipales et vise les régionales avec une cible, Valérie Pécresse.
Information Europe 1, signé Mickaël Darmon.
Et ce document qu'Europe 1 vous propose ce matin à présent, Isabelle Balkany attendait avec beaucoup d'impatience l'autorisation de rendre visite à son mari, incarcéré, vous le savez, Patrick Balkany, depuis vendredi dernier à la prison de la santé pour fraude fiscale.
Et l'autorisation, elle l'a reçue en fin d'après-midi. Elle a pu le voir, son mari, un premier parloir qu'elle a accepté de nous raconter.
Comment vous l'avez trouvé ?
Il souffre beaucoup de son dos. Bizarrement, lui,
qui est très bien réglé au point de vue tension. Là, il a la tension clairement haute. Il est crevé. Et puis, moralement, serein, motivé et s'inquiétant pour moi. Il s'inquiète pour moi alors que on était là dans une petite salle, assis sur deux chaises bien dures. Et je savais, s'il y a quelqu'un qui le connaît, c'est moi. Il avait mal tout le temps.
Et vous avez pu le voir combien de temps ?
Ah bah c'est réglementé, hein, c'est 45 minutes pour tout le monde. Vous savez, j'avais l'impression que c'était notre premier rendez-vous. Mais c'était un choc, je tremblais comme une feuille. Je ne parle pas de la cellule. La seule chose qu'il m'a dit, c'est que la bouffe était immonde, que surtout c'était froid, que ce matin, par exemple, il a eu un steak et des pâtes glacées. Il m'a dit, je fous direct à la poubelle. Le pain est immonde. Alors, par contre, les aumôniers ont le droit d'amener la bouffe. L'aumônier, qui est en plus un copain du rabbin de Levallois, est venu le voir hier matin. Il se trouve que le rabbin était schkénaze, comme mon mari. Alors, le rabbi lui dit vous voulez que je vous amène quelque chose ? Alors, il dit oui, la carte farcie, des cornichons et des harengs. Il a fait sa commande schkénaze au rabbi.
Est-ce qu'il a conscience qu'il peut rester longtemps en prison ? Et est-ce qu'il a pu réfléchir aussi sur le jugement qui a été rendu ?
Non, écoute, on n'a pas parlé de ça. On a parlé de nous, on a parlé des enfants, on a parlé des petits-enfants. De notre petit-fils aîné qui fait des terreurs nocturnes et qui dit qu'il veut aller libérer son papou et que lui, on l'empêchera pas de ramener son papou. Il m'a parlé de la mairie parce que j'ai un conseil municipal lundi, on a parlé de la mairie. Et il a été très touché parce qu'il a déjà reçu 30 ou 40 lettres de soutien de gens.
Voilà un document ce matin sur Europe 1. Isabelle Balkany, jointe par Victor Dolande.
Le football, à présent, avec d'abord des fortunes diverses pour les deux clubs français qui jouaient en Ligue des Champions. Hier soir, une claque pour Lille sur le terrain de l'Ajax Amsterdam.
3-0 et plus de 300 supporters lillois arrêtés pour violence. Match nul pour Lyon contre le Zénith Saint-Pétersbourg, un partout. Mais désormais, les yeux sont tournés vers le PSG.
Paris, privé de ses stars, sans Neymar, sans Mbappé, sans Cavani qui affronte le Real Madrid au Parc des Princes. La Ligue des Champions, c'est l'objectif sans cesse répété depuis près de 10 ans pour le Paris Saint-Germain. Soirée spéciale sur Europe 1, sachez-le, à partir de 20h. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Et puis, jouez le jeu des pronostics, n'hésitez pas. Au 39-21 sur le hashtag Europe 1. Hélène Zélani, tiens. PSG Real ce soir
2-1
pour Paris, c'est
pour
très
Paris.
Bien 2-1 pour Paris, je crois.
Allez.
Qu'on prend du côté des supporters du PSG. Merci beaucoup Hélène Zélani, c'était le journal, prochain journal à 6h30 tout à l'heure avec Jérôme Lacroix.